dans le genre de
Nina Bouraoui.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée. Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Nina Bouraoui, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
Oui, je pense. Je le suis devenue. Ça a pris du temps, mais j'occupe ma féminité, du moins à l'extérieur. En revanche, l'enfant étrange que j'ai été, elle a exactement cartographié à l'intérieur de moi. Ça, j'ai pas changé.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Dans le genre, l'émission dans laquelle une personnalité cherche à explorer ou à préciser du moins la relation qu'il ou elle entretient avec sa féminité, sa masculinité, avec son genre. Et pour cette première émission de cette saison 3, je suis ravie de recevoir Nina Bouraoui. Bonsoir Nina.
Bonsoir.
Nina Bouraoui, vous êtes écrivaine, vous vivez à Paris, on vous a découvert au milieu des années 90 avec des romans tels que La Voyeuse interdite ou Mes mauvaises pensées. Je me souviens très précisément de la sortie d'un autre de vos livres, Garçon manqué, en 2000, qui inaugurait un nouveau cycle d'autofiction. C'est un livre dans lequel vous racontiez une enfance tomboy en Algérie et qui entrelaçait des thèmes de l'identité, ou plutôt des identités, fille-garçon, française-algérienne, et qui parlait également de désir, d'exil, d'enfance.
Solamine, c'est mes jeux, mon imitation. Solamine, c'est mes envies secrètes, des monstres dans l'enfance. Je prends un autre prénom, Ahmed. Je jette mes robes, je coupe mes cheveux, je me fais disparaître. J'intègre le pays des hommes, je suis effrontée. Je soutiens leurs regards, je vole leur manière, je prends vite, je casse ma voix. Je n'ai pas peur des hommes de Zeralda. Ils occupent la plage entière. Ils plongent dans l'eau d'un coup, sans mouiller la nuque, le ventre, les chevilles. Ils sont résistants. Ils prennent la mer. Par leurs cris, par leurs gestes, par leurs corps massés et nombreux. Ils sont violents. Ils sont en vie. J'ajuste mon maillot, une éponge bleue. Je marche, les jambes ouvertes. Je suis fascinée. Amine, même comme un garçon.
Vous sortez aujourd'hui « Tous les hommes désirent naturellement savoir », un roman qui fait écho à « Garçon manqué » dont on parlait précisément, puisqu'il retourne dans l'Algérie de votre enfance, dans ses souvenirs en tout cas. C'est un très beau livre sur la mémoire, sur le devenir soi. Il y a l'Algérie, on le disait, et puis il y a les souvenirs du Paris de la fin des années 80 dans lequel vous arrivez. Vous avez 18 ans et ce livre raconte ce moment très particulier, très intense. Vous allez à la fois commencer à vivre votre homosexualité et devenir écrivain. On vous écoute en lire un extrait.
Devenir. J'éprouve au cat une forme de honte sociale, une honte dont j'ai honte. Je côtoie des femmes étrangères à mon milieu, des ouvrières, des anciennes détenues, des prostituées. Nous nous mélangeons par fatalité, obligés par un dénominateur commun, notre orientation sexuelle. Je souffre de ma propre homophobie. Je me méprise moi-même quand je me moque des couples de filles enlacées sur les banquettes, la piste de danse, dans la rue pour les plus courageuses. Je leur en veux de s'afficher ainsi. Elles risquent de me compromettre si je reste près d'elles.
Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre de Nina Bouraoui.
Nova. Dans le genre. L'enfance.
Je suis née en 67, à Rennes. Mes parents habitaient déjà en Algérie, mais ma mère désirait accoucher en France, là, je pense dans sa ville. C'était quelque chose peut-être qui l'a rassurée. Je suis née le 31 juillet et je suis arrivée à Alger en septembre, à l'âge de 2 mois. Donc je peux dire quand même que l'Algérie est ma terre natale, Alger est mon pays natal, et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 14 ans. Mes parents, à l'époque, mon père est encore étudiant, il a achevé son doctorat d'économie, ma mère est universitaire aussi, elle a achevé sa licence de droit. Mon père donne des cours à la faculté d'Alger d'économie, et puis après il gravit les échelons, il travaille pour la Banque centrale d'Algérie. Mon père est ce que l'on nomme un haut fonctionnaire international. Il représente l'Algérie au Fonds monétaire arabe, à la Banque mondiale. C'est un père qui est mon héros, mais qui est souvent absent, qui voyage beaucoup. Et ma mère est cette Française, elle fait partie de ces Françaises qui arrivent en Algérie alors que les Français, en général, quittent l'Algérie. C'est après l'indépendance. Et elle l'embrasse, ce pays, certainement comme elle embrasse mon père. Elle tombe amoureuse, folle amoureuse de ce pays, qui est un pays compliqué pour elle, parce que marqué par la guerre, mais qu'elle ne va jamais... repoussée, bien au contraire. Elle va nous apprendre notre part algérienne à ma sœur et moi en découvrant ce pays dans sa GS bleue jusqu'au désert. Et elle va nous donner aussi une grande leçon d'ouverture, de tolérance. Ma mère apprend l'arabe. Elle se bat parce que c'est une Française. Elle est blonde aux yeux bleus, que ce n'est pas toujours facile pour elle. Et elle me montre à la fois que même si on sort d'une guerre qui a été terrible, hein, la guerre d'Algérie, avec des violences inouïes des deux côtés, eh bien elle m'apprend que deux pays qui se sont déchirés peuvent aussi s'aimer. Elle incarne ça, et je crois que je vais l'incarner aussi malgré moi, ce qui va peut-être faire des distorsions dans mon corps, parce que c'est toujours très bizarre de se dire que je suis à la fois le fruit de la paix et le fruit de la guerre.
Et votre mère, vous disiez, elle était blonde, elle avait des yeux bleus. C'était quel type de femme par rapport aux normes du féminin, votre mère? Elle était très féminine. Vous la trouviez comment, vous?
Ouais, j'allais faire un lapsus absolu, j'allais dire ma femme, vous voyez. Moi, j'étais folle amoureuse de ma mère. Vous savez, ouais. Moi, j'ai très, très vite compris que j'étais homosexuelle et que c'était une jouissance, une réjouissance absolue. Parce que
dès l'enfance, fait assez tôt?
À 4 ans, je veux épouser ma mère. Voilà, je fais un complexe d'Oedipe inversé. Je ne veux pas faire la psychanalyse à dessous, mais je pense que ça veut dire peut-être quelque chose. Peut-être pas, en tous les cas pour moi, ça signifiait ça. J'avais beaucoup de chance parce que ma mère était entourée de très jolies femmes, très féminines. J'ai ma sœur à 5 ans de plus que moi, ses amis venaient à la maison. Donc on vivait dans une sorte de gynécée absolue. Mon père, je vous l'ai dit, partait souvent aux États-Unis.
Mais votre père, lui, par rapport à la virilité, il était comment? Il était souvent absent, mais c'était...
Souvent absent, mais c'était un père, c'est toujours un père... C'est marrant parce que c'est un père aujourd'hui de plus en plus musulman, de plus en plus croyant, parce qu'il vieillit. Mais c'est un père d'une modernité absolue, qui adore les femmes, qui adore avoir épousé une Française, qui adore avoir deux filles, qui n'a pas le regret de ne pas avoir eu un fils. Il ne m'élève pas du tout ainsi. Mais il répond à mon désir de le copier, de le singer, à mon désir d'apprendre le foot, à mon désir de plonger des rochers avec lui, à mon désir de l'accompagner parmi les hommes, c'est-à-dire chez le boucher, chez l'épicier. L'Algérie est un pays très viril. Les femmes sont quand même assez séparées des hommes, même si on est dans les années 70 et qu'il y a quand même, après la guerre, une sorte de douceur qui est peut-être, oui, enserrée parfois, de violence un petit peu sourde. On sait que c'est un pays qui est en train de se construire, qui va peut-être perdre quelques illusions, mais on est dans un segment quand même assez joyeux. Mon père est quelqu'un de très coquet, qui se parfume, qui se change souvent, qui est très ouvert d'esprit. Parce que, à sa façon, lui, il a souffert du rejet. C'est un jeune, à l'époque, dans les années 50, on les appelait les jeunes musulmans de France. C'est-à-dire que mon père est issu d'une famille de résistants. Il perd son frère aîné pendant la guerre d'Algérie. Et on exfiltre ce jeune garçon pour qu'il continue ses études. Et il arrive en France, d'abord à Vannes et puis à Rennes, où il rencontre ma mère. Alors ma mère, c'est une femme très sensuelle, très sexy, qui ne veut pas du tout plier, peut-être aux diktats déjà établis, comme quoi une femme ne va pas seule avec les amis de mon père à la plage, une femme peut-être doit faire attention, pas trop de bikini, elle est sans fiche éperdument, ma mère porte des talons hauts, c'est les années 70.
Elle est libre.
Elle est libre, elle continue à l'être, elle est forte, c'est un modèle de féminité que je n'ai pas happé ou que j'ai happé sur le tard, puisque lorsque je suis enfant, moi je quitte mon identité de petite fille. Je ne peux pas dire que je suis un garçon. Je suis entre les deux.
Alors, on va parler de ça juste après. On écoute un titre que vous avez choisi, Nina Bouraoui. C'est un titre de Férouz.
Oui, j'adore.
Alors, Aïbatak Bisaïf, je ne sais pas comment vous
prononcez. Aïbatak Bisaïf.
Merci. Et alors, pourquoi vous avez choisi ce morceau?
Parce que c'est la chanson de mon enfance. Je crois qu'elle raconte l'histoire d'un chagrin d'amour. C'est une chanson d'amour, comme souvent. Alors après, Férouz était une activiste militante qui a beaucoup parlé du peuple palestinien, mais aussi beaucoup d'amour et de déchirement. C'est pour moi la diva orientale, je trouve. Et ma sœur chantait beaucoup enfant, et elle me chantait souvent cette chanson. Pour moi, c'est la chanson d'un romantisme absolu, et en plus, c'est une femme qui la chante.
Alors vous le disiez, vous étiez...
Nina Bouraoui.
Une enfant étrange, c'est comme ça que vous avez dit ça. Alors expliquez un petit peu, parce que vous avez commencé à vous habiller en garçon. Comment vous vous sentiez quand vous étiez enfant ?
Moi, je me sens l'enfant enfermé. L'enfant enfermé qui ne parle que à son milieu, à sa famille. Et je ne me considère pas comme une petite fille, parce que je sais que la force est du côté des garçons. Mais je ne singe pas les garçons. Je me recrée un autre genre qui serait le mélange de l'enfant poète que je suis déjà, parce que j'écris déjà, quand je commence à écrire. Et puis je dessine beaucoup. Et puis l'enfant de la nature. Donc je deviens... je pense qu'en Algérie, c'était possible dans ces années-là. Je suis un peu un sauvageon, en fait. Alors après, ça se rapproche peut-être plus d'une figure masculine. Mais moi, j'ai du mal à le voir ainsi, parce que je me considérais, oui, pas comme une fille, mais pas tout à fait comme un garçon. Je me sentais entre deux et j'avais bien compris que la force était du côté, en effet, masculin, mais la liberté aussi. Et moi, je veux être un être libre. Alors oui, je me débaptise, je veux m'appeler Ahmed, Mohamed, je m'appelle Yasmina.
Vous demandez à vos parents qui vous appellent comme ça ?
Oui, je jette mes robes. On habite au sixième étage. Hein, je jette toutes mes robes au sixième étage. Alors, ma mère est d'un laxisme absolu, extraordinaire. Nous sommes dans les années 70. Ma mère, elle est issue d'un milieu dur où l'enfant est un sujet, où elle ne connaît ni les caresses, ni les baisers, ni les mots d'amour. Donc, elle redouble de liberté, de tendresse envers moi et ma sœur. Et finalement, je fais ce que je veux. Mon père, je le dis, est un père aimant, mais souvent en voyage. Donc, c'est assez joyeux et j'ai le droit d'habiter la personne que j'ai choisie. Parce que c'est vraiment ça, je trouve, l'identité, finalement, on peut la choisir.
Donc, vous jetez vos robes ?
Je jette mes robes, je veux des chaussures de garçon, ça c'est un peu plus compliqué, donc j'ai des sandales ou des claquettes. Et alors j'ai les cheveux très courts, à l'époque je suis très 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 fine, je ne mange pas beaucoup. Et puis j'ai ma panoplie, c'est-à-dire que je porte un bas de jogging, un marcel blanc et une paire de claquettes. Et là, je suis la reine du monde. C'est pas la plus grande élégance, mais je me sens totalement en adéquation avec la personne que je suis.
Et c'est au moment de l'adolescence que vous comprenez que justement vous n'êtes pas totalement en adéquation avec les dames dominantes.
Ouais, pas du tout. Alors c'est très très bizarre parce que je trouve que finalement la jeunesse est tellement normative et tellement classique. Et lorsqu'on devient adolescent, on a absolument pas envie de quitter la norme, de quitter le groupe. On n'a pas vraiment pas envie d'être différent. Et mon corps me rattrape, étrangement.
La puberté.
Je deviens une jeune fille. Je commence à grossir, à avoir des formes.
Vous le vivez comment ?
Bizarrement bien. Très bien. Parce que je sais que je peux tromper mon monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, avant c'était clair, on avait compris, Nina est étrange, Nina est bizarre. Ma grand-mère française le vivait mal parce que quand je passais des vacances en France, elle me disait « Mais Nina, tu vois bien, à chaque fois qu'on rentre dans un restaurant, c'est bonjour jeune homme, bonjour garçon. » Elle me dit « Moi, je ne peux plus le vivre. » Ma grand-mère avait honte.
Vous étiez contente quand on vous appelait jeune homme ou c'était quelque chose que vous viviez comment ?
J'étais assez fière, mais j'avais honte de la honte des autres. C'est compliqué, ça. Et un enfant le ressent très bien, parce que pour moi, c'était naturel, c'était normal, c'était un jeu. Quand je voyais ma grand-mère avoir honte, après en France, ma mère, qui commençait à me dire peut-être il faut être un tout petit peu plus élégante. Elle était peut-être un peu plus élégante, mais moi, j'avais pas honte. Et puis, adolescente... Comme tous les adolescents homosexuels, j'ai cette période terrible où je confonds l'amitié et l'amour, où je confonds la tendresse et le désir, et où je passe ma vie à me méprendre sur les sentiments de mes amis, dont je tombe folle amoureuse, parce que moi je suis une passionnée, je suis une grande amoureuse, j'ai des passions, et je ne fais que me faire rejeter et un jour outer par une amie de lycée qui s'appelait... Diana, d'ailleurs la vie heureuse lui est consacrée. Et je suis folle amoureuse de cette fille qui a mon âge, mais qui fait 10 ans de plus. Sa mère a un commerce de textile en Égypte. Elle est souvent seule chez elle dans une maison. Nous avons une relation très tendre, mais pas du tout homosexuelle. Et un jour, elle dit à ma sœur que je suis homosexuelle. Elle le dit au lycée. Et je rase les murs. C'est-à-dire que je connais cette sorte de... Comment dirais-je, de procès. Je suis la lycéenne que l'on ne doit plus fréquenter. Donc les parents d'élèves appellent ma mère et disent « Plus personne ne viendra chez vous, c'est terminé le week-end, plus d'amis. » Et je fais quelque chose d'odieux et d'absolument cruel. C'est que je flirte avec un des plus beaux garçons du lycée, Ignacio. Donc je donne les preuves que je ne suis pas homosexuelle. Et j'inverse. J'accuse cette jeune fille d'être homosexuelle et je l'isole. Et c'est pour moi la plus grande violence et le plus grand regret que je porte en moi. Mais j'ai le courage de le dire parce que je pense que chaque homosexuel, à cause de la société, à cause de la norme, à cause de la honte que les autres nous font ressentir à cause des insultes, l'homosexualité féminine, elle est bizarre parce que elle fait partie du fantasme de certains hommes, ou alors les sales. Il n'y est jamais question d'amour, de chemin, de nature, d'enfance homosexuelle, d'adolescence homosexuelle. Moi, je me souviens des mots. Ça me dégoûte. Je me souviens Voilà, je me souviens des blagues vaseuses, enfin, on les connaît tous. Et ça, même si au fond de moi, j'ai toujours été fidèle, je savais que mon cœur vibrait pour les femmes, et j'ai eu un moment de flottement, je dirais entre 15 et 18 ans, il ne dure pas très longtemps, où je repousse ce que je suis, où ce que je suis ne me dégoûte pas, mais me fait peur, parce que j'ai l'impression que le monde extérieur est mon ennemi, que je ne trouverai pas jamais une femme comme moi qui pourra m'aimer, que je pourrai aimer, que tout cela est très compliqué.
Dans le genre de
Nina Bouraoui.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Musclé.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Virile.
Alors, vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours en compagnie de l'écrivain Nina Bouraoui, qui vient de publier « Tous les hommes désirent naturellement savoir » chez Lattès. On continue cette émission avec un titre de sa sélection, et c'est « Breakfast in America » de Supertramp. Alors Nina, pourquoi ce choix ?
C'est une chanson qui est à l'intérieur de mon livre. À l'époque, donc, nous écoutions beaucoup cet album. On partait avec la GS bleue de ma mère dans le désert, jusqu'à Tamanrasset. On prenait la transsaharienne. Et ma mère, cette grande courageuse, je me souviens, doubler ces très longs camions citernes de gaz, de pétrole. On lui épluchait des oranges et elle avait tellement peur de ne pas y arriver. Il y avait une part d'inconscience, mais tant mieux, c'était un peu la chevauchée fantastique. Et on chantait cette chanson à ma mère. Et pour moi, c'est vraiment la chanson de l'enfance, de l'insouciance, et à la fois avec le sentiment de vivre quelque chose d'important. Parce que ce livre, il vient du désert aussi. Il vient d'un dessin que je ne cesse de faire. Alors, est-ce que je l'ai vu sur les peintures rupestres du Tassili, ou est-ce que je l'invente et quand je le retrouve sur les peintures ? Et ce livre, c'est un livre sur l'origine, vraiment, et sur la liberté. Et ces peintures-là, qui décrivent ces hommes-là avec leurs arcs, leurs flèches, qui décrivent un désert qui est luxuriant, qui n'est pas le désert, me fait comprendre, voilà, ce dessin-là, me fait comprendre et me donne l'amorce de mon livre que nous dépendons des premiers hommes, des premières femmes, que la liberté n'existe pas, que nous sommes les héritiers d'une part sauvage qui est bien plus grande que l'on ne le croit.
Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along.
dans le genre de
Nina Bouraoui.
Vous venez de publier, on l'a dit, Tous les hommes désirent naturellement savoir. Et dans ce livre, donc, qui reparle de votre enfance en Algérie, mais aussi de votre arrivée à Paris, à 18 ans, et du moment où vous allez décider de vivre votre homosexualité. Et dans ce livre, une des choses qui m'a beaucoup intéressée, c'est que l'homosexualité est envisagée comme un territoire à occuper, à investir. Mais ce territoire, il a une réalité. Dans le livre, il a un nom. C'est un club dans lequel vous allez le soir. C'est le Katmandou. Alors, c'est quoi le Kat?
En fait, donc j'ai 18 ans et soudain, à force d'avoir été tant rejetée, à force de tant de méprise, tout d'un coup, je pense qu'il faut aller chez les spécialistes, chez les vrais. Donc, à l'époque, c'est, je crois, dans le Pariscope, les dernières pages du Pariscope, je vois à la page cabaret, je crois, ou divertissement, Katmandou, club réservé aux femmes. Donc j'habite pas très loin, moi j'habite à côté du Luxembourg, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs, et je vois que c'est rue du Vieux Colombier. Le Katmandou est devenu d'ailleurs le théâtre du Vieux Colombier. Et je décide un soir de m'y rendre, seule. Alors j'ai cette espèce d'excitation, de peut-être de la transgression, de faire une bêtise, d'être un peu, je vais dire un mot terrible, presque grossier, d'être comme en délinquance. J'ai l'impression de commettre une sorte de délit, mais absolument magnifique et très excitant, parce que moi, le jour où je suis à la fac d'Assas, les étudiants que je fréquentais malgré moi n'étaient pas d'une grande ouverture. D'ailleurs, je ne suis restée que 2 ans, j'étais un cancre et je suis vite partie. Et donc, je me rends dans ce club, je suis la plus jeune. Je rencontre tout de suite, alors on me demande mes papiers tout le temps, on ne me croit pas, on pense que je ne suis pas majeure. Et moi, je suis assise au bar et je regarde. Alors, je suis très vite protégée par Eloula Perrin, qui est une grande figure emblématique.
Alors, elle était comment, Eloula Perrin?
Écoutez, elle était drôle, c'était vraiment la patronne de la nuit. C'est-à-dire que, alors toujours avec des tailleurs fleuris, des chemisiers fleuris, des colliers de perles, des bagues à tous les doigts, un cigarios, une coupe de champagne, mais avec une sorte de fermeté, parce que c'est normal, c'était la patronne de la nuit. Elle invitait, je me souviens souvent au bar, parfois en fin de soirée, arrivaient des policiers, parce qu'il y avait le poste de police rue Bonaparte, pas loin. Et puis on sait, voilà, la nuit, mafia, police, chacun protège les uns. Donc elle était, moi je trouvais qu'elle avait beaucoup de courage, et puis elle avait fait de son club, non seulement un club pour les femmes, mais un club presque mythique où se rendaient des acteurs, où se rendait Gainsbourg. Et c'est drôle parce qu'avec ce livre, soudain, beaucoup de gens m'ont dit « mais moi j'y allais, mais j'étais pas homosexuelle, mais j'y allais ». Alors elle avait cette phrase assez terrible, elle disait « bon, les hommes, vous pouvez rentrer, vous n'êtes pas ici chez vous, vous ne regardez pas trop ». Et puis elle avait ce mot d'une grande vulgarité, mais moi qui me faisait rire, elle disait « vous laissez vos couilles au vestiaire ». Voilà, ça c'était Lula, mais à la fois avec elle avait une tendresse particulière pour moi, comme Mariam, qui tenait la porte, qui s'occupait du vestiaire, qui était une femme africaine, qui n'était pas homosexuelle, mais tout le monde venait pleurer sur son épaule, parce que entre filles, les amours étaient compliqués, c'était la nuit, donc c'était pas l'amour, c'était un club de rencontres, mais moi ce qui m'a toujours assez fascinée, c'est que je me suis rendu compte à cet instant-là, à ce moment-là, que vivre une histoire d'amour avec une femme, ce n'était pas juste vivre une histoire d'amour. C'était presque militant, c'était presque politique. C'était tout d'un coup, j'habite ma différence, je l'occupe. Et c'est pour ça qu'il y avait tant de bagarres. Il y avait un enjeu amoureux phénoménal.
C'est ce que vous écrivez, que vous rendez compte, vous rendez compte de beaucoup de choses dans cet endroit, mais vous vous rendez compte que le désir homosexuel, enfin en tout cas la première fois que vous tombez amoureuse, c'est un destin.
Oui, c'est un destin, parce que on est dans les années 80, on est en 85, les femmes rasent les murs, encore, vraiment. Quand on entre dans cet endroit, moi j'ai très peur de croiser des amis de mes parents, des amis de ma sœur, j'ai très peur que des étudiants qui passeraient par là, vers la rue de Rennes ou la rue du Colombier, j'ai très peur d'être démasquée. Je donne mon nom, qui est mon prénom, qui est sur ma pièce d'identité, c'est-à-dire Yasmina, et pas Nina, parce que je sais déjà que je vais être un écrivain. Donc oui, tout d'un coup.
Et donc vous protégez, vous voulez.
Je me protège parce que j'ai peur qu'on sache. Je ne m'assume pas du tout, mais je dois le vivre. pour moi, c'est extrêmement important. Je ne veux pas trahir la personne que je suis. Je ne peux pas faire semblant. Et moi, je suis une amoureuse. Donc, tout d'un coup, je vais fréquenter des femmes qui ont, soi-disant, le même désir que moi, la même identité. Mais c'est un leurre, parce que nous sommes tous différents. Mais c'est très intéressant, parce que je sens que j'ai un pas d'avance sur les étudiants que je fréquente la journée. J'apprends la violence des femmes, la soumission des femmes, le bonheur aussi d'appartenir à une tribu. Moi, je suis très heureuse. J'ai trouvé une famille, elle est bizarre, elle est un peu même parfois rude, sans compromis. Mais j'appartiens enfin à un groupe.
On va écouter un titre que vous avez choisi, Nina Bouraoui. C'est un titre de The Psychedelic Furs, Love My Way. Alors, pourquoi ce choix ?
Ah, mais parce que moi, j'adore ce réalisateur italien. C'est d'après ce film magnifique, Call Me By Your Name. Je trouve ce film m'a tellement touchée parce que cet adolescent qui tombe amoureux d'un garçon plus âgé que lui, alors qu'il vit vraiment son amour et son désir et sa sexualité, et ce garçon après disparaît et va se marier, cette adolescence est un peu moi. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le réalisateur est sicilien par son père et algérien par sa mère. Et je trouve que dans Amore aussi, il a une façon de filmer les fleurs, les arbres, la nourriture. Il y a une poésie méditerranéenne qui me touche énormément.
Dans le genre.
Dans le genre.
De.
Nina Bouraoui.
Pour vous, l'écriture et l'homosexualité sont des choses qui sont intimement mêlées ?
Oui, mon homosexualité m'a beaucoup appris, m'a élevée aussi. Elle m'a élevée dans le sens où voilà, nous vivions quelque chose, je trouve, d'important, parce que le sida arrivait. Il était en train de détruire, de décimer la communauté homosexuelle masculine. Et il était en train d'imposer le silence à la communauté homosexuelle féminine. On n'en parlait pas. Ça voulait dire que le monde, même dans le malheur, même dans la minorité, appartenait toujours aux hommes. Alors mon homosexualité, elle m'a enseigné peut-être la tolérance, la bienveillance, la résistance. Elle m'a donné de la force. Elle a aussi fait que j'accepte aussi... finalement, c'est bien d'être fragile. Et finalement, c'est bien d'être différent. Parce que nous le sommes tous. Pas uniquement les homosexuels. La différence, elle peut toucher tout le monde. Et je crois que les autres ont essayé de... Peut-être la société, quand je dis les autres, c'est aveugle, c'est invisible. Moi, j'ai grandi dans un milieu quand même extrêmement tolérant. J'ai beaucoup de chance. Mais je parle du modèle social quand on est jeune et vous ne correspondez pas à ce modèle. Ces autres qui m'ont inculqué la honte de moi, je l'ai transformé en douceur et en amour des autres et en amour de moi-même. C'est ça le destin homosexuel.
Vous parliez de honte de vous. Vous dites aussi que OCAT, justement, c'est un lieu où vous avez appris à vous confronter à votre homophobie. Ce sentiment, cette détestation, il a duré longtemps ?
Il s'est diffusé en moi, oui. Je crois qu'il s'est diffusé pendant des années. Et bizarrement, je suis ravie que vous citiez Garçon manqué, parce que Garçon manqué commence à l'ouverture, alors qu'il est paru en 2000. J'ai 33 ans, je ne suis plus une adolescente, hein. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que je vais faire très vite, mais c'est à l'époque, je suis chez Stock, et Christine Angot, qui est chez Stock, crée une collection qui s'appelle Sujet, et me demande un sujet Bouraoui. Finalement, la collection ne se monte pas, et Sujet Bouraoui devient Garçon manqué. Et je trouve que c'est une main tendue formidable, parce que je vais pouvoir sortir des livres, certes très poétiques, mais tout d'un coup, qui commencent à se refermer sur moi. Parce que je me disais, il faut que j'en parle. Si je veux parler d'amour, si je veux parler de mon enfance, si je veux parler de mon identité, il va falloir que j'écrive et que je dise que je suis homosexuelle. Mais j'ai eu très peur.
Donc, est-ce qu'on peut écrire autrement ?
C'est impossible. Et j'avais de telles barrières. C'était pas possible. Et je voulais pas me trahir. Moi, je voulais pas mentir. Donc, je vais voir un médecin psychiatre. Je suis arrivée. Bonjour. J'ai 33 ans. Je suis écrivain. Je suis homosexuelle. Aidez-moi. Je veux plus avoir peur. Il n'y aura aucun châtiment, aucune punition, je veux pouvoir écrire. Et pendant la période de cette parole thérapeutique, j'écris Garçon manqué. Et là, je commence vraiment à me défaire des oripeaux de la honte. Mais les oripeaux de la honte, ils reviennent très vite. C'est-à-dire qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, pour le mariage pour tous, qu'est-ce qu'on a eu en réponse ? La manif pour tous. Moi, quand je vois 1 million de personnes à Paris, qui défilent, avec des enfants, qui tiennent des pancartes. Bientôt, les chiens vont se marier entre eux. Je pleure et je suis reconnectée à cette honte, à cette humiliation. Et ça, je trouve ça insupportable. Ça, je trouve ça horrible. Parce que je suis à nouveau emmurée. À nouveau, je me sens sale. Je me sens sale à cause des autres. Mais évidemment, voilà, je suis une femme. J'ai écrit, j'ai plusieurs livres derrière moi. Et je pense que je vois cette parole de liberté qui est grandissante. Bien sûr, aujourd'hui, on peut dire « oui, je suis homosexuelle », mais la parole de haine, elle a grandi en même temps. C'est pour cette raison que j'écris « Tous les hommes désirent naturellement
ouais,
savoir ».
Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Si justement, la montée de haine à laquelle on a assisté, et d'homophobie hein, très très forte, c'était quelque chose aussi que vous avez motivé pour parler de ce que vous appelez l'enfance homosexuelle. Hein,
Oui, moi j'en parle avant que le pape... et d'ailleurs, je me suis dit, bah, merci, c'est bien, tant mieux. Moi, je l'ai dit bien avant, puisque ce livre, il est écrit, je le termine en mai. Et pour moi, c'était très important pour ces enfants-là. Souvent, j'ai dit, je ne suis pas militante, Mais évidemment que je suis militante. Évidemment que j'ai essayé de faire passer une parole. Évidemment qu'en 2000, il n'y a pas beaucoup de femmes hein, qui écrivent sur l'homosexualité. Pardon. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de films. Il n'y a pas beaucoup de références, de représentations. Parce que voilà, le monde est encore aux hommes, que les femmes ont peur, que les femmes n'ont pas le même chemin, qu'elles sont bridées. Moi, c'est génial. J'accumule tout. Je suis métisse, je suis homosexuelle, je suis une femme et je suis un écrivain. Alors faisons de ça une sorte de force pour les autres.
Vous parliez des années 90, 2000 en fait. Effectivement, il y avait très peu de représentation, de visibilité hein, pour les lesbiennes. Déjà, c'est un mot qu'on disait assez peu souvent.
Oui.
Hein, on avait honte de dire, oui. Parfois. Vous avez la sensation qu'aujourd'hui, ça a changé ?
Oui, je trouve quand même. Je trouve, mais soyons vigilants. Il ne faut pas dire « Ah, ça y est, tout le monde peut le dire, puis on peut se marier, on peut adopter des enfants, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. » Non, je pense que, hélas, dans toutes les révolutions, il y a la contre-révolution. Et aujourd'hui, la contre-révolution, c'est la haine de l'autre. Et je pense que nous vivons dans un monde où il est facile d'accuser les minorités. Je pense que notre monde est malade, notre monde est triste, notre monde est cruel. Et que nous cherchons des boucs émissaires, et que les homosexuels peuvent être à nouveau des boucs émissaires. Mmh. Moi, c'est ce que je ressens. C'est triste.
Comme beaucoup d'autres minorités, en fait.
Voilà, ouais. Comme toutes les minorités. Mmh. La fragilité, la différence. Je pense qu'il y a quelque chose. La meute est en colère aujourd'hui, vraiment. Mais quand je dis la meute, je veux dire le plus grand nombre. Ceux avec qui je voulais, moi, être. Quand j'étais une enfant, je voulais appartenir à cette meute. Moi, je ne voulais pas être différente. Ça me posait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Parce que quitter la norme, faut être très fort pour quitter la norme. Alors oui, ça va mieux, mais soyons vigilants.
On va écouter un titre que vous avez choisi, Nina Bouraoui. C'est une reprise de Françoise Hardy, une Miss Simis par Exotica. Alors pourquoi ce choix ?
Vraiment, pour le film de Xavier Dolan. Juste la fin du monde, et c'est une scène, je trouve, absolument sublime, où le héros qui revient et qui n'arrive jamais à dire ce qu'il a envie de dire, qu'il est malade, et se remémore Joli Cœur, qui était l'un de ses premiers amants. Et cette musique s'inscrit, il le rejoint, je pense, il passe par la fenêtre de sa chambre. Il est blond, il a les cheveux longs, et je trouve que Xavier Dolan a cette espèce de génie, de mélange de genre, justement. Au départ, on a l'impression que c'est une femme. Et en fait, c'est un garçon. Et je trouve cette chanson, en effet, qui est une reprise de Françoise Hardy, cette scène qui est d'une suspension dans le temps et de beauté magnifique.
Je sais bien que ton petit écho est au point zéro. T'avais besoin. Et me casse.
bruise de cieux. La miss insiste, t'es complice, tu me dis pas tout.
Genre 2.
Nina Bouraoui.
Quand vous étiez enfant, vous disiez, vous aviez envie qu'on vous appelle avec un prénom de garçon, vous aviez pris cette apparence-là. Et puis, aujourd'hui, enfin, depuis qu'on vous connaît, ça fait une trentaine d'années maintenant, quand on vous voit, vous avez une apparence très classiquement féminine, je vais dire, avec aucun signe, vous avez adopté aucun signe de, entre guillemets, l'homosexualité, je veux dire, de signe de ralliement, vous voyez ce que je veux dire de, c'est quelque chose qui vous a questionné ou pas du tout?
Non, parce que je pense que je suis assez... Moi, j'aime bien les habits de filles, maintenant. J'adore les talons, j'adore les jupes, j'adore les... c'est pas du tout... Alors, c'était pas pour me fondre, pas pour dire...
C'était pas pour vous cacher.
Non, parce que je trouve beaucoup plus... pour moi, c'était peut-être beaucoup plus vicieux et beaucoup plus pervers d'être la femme féminine que j'étais, en trompant parfois le monde, peut-être les hommes, pour montrer que nous sommes une tribu tellement riche, nous sommes toutes tellement différentes. Cheveux courts, cheveux longs, féminines, pas féminines, je sais pas. Et que on ne peut pas, il n'y a pas d'étiquette. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu peur. Moi, je suis un être libre. J'aime la liberté, même si je sais d'ailleurs à travers ce livre que nous ne sommes pas libres, nous avons les héritages de nos ancêtres et que justement la psychanalyse peut-être nous éclaire un peu sur les fardeaux que nous devons porter. Mais justement, moi j'aime bien être féminine et j'aime bien peut-être aussi parfois surprendre des femmes qui seraient un peu moins... Mais ça veut dire quoi féminine après tout? Moi je n'ai pas pris les codes des hétérosexuels, je suis Nina, c'est-à-dire j'ai réussi à rassembler mes deux parts, française, arabe, et mes deux parts, garçon, fille. Mais à l'intérieur de moi, le garçon en jogging, Marcel et claquettes est très fort. Hein. C'est lui qui gagne. Et c'est lui qui me fait écrire.
Et justement, je voulais vous demander, enfin, vous avez un petit peu répondu, mais quel rapport vous entretenez avec votre physique? Vous aimez bien?
J'ai appris à m'aimer. C'est difficile, je trouve, de s'aimer. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à ne plus diriger la colère contre moi. Vous savez, moi, j'ai crié jusqu'à l'âge de 18 ans. Je ne faisais que crier. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un timbre de voix un peu étrange. Et je suis toujours en train de pousser ma voix parce que j'ai cassé ma voix beaucoup. J'étais en colère. J'étais en colère contre le monde, en colère contre l'injustice, en colère. Je suis un peu comme ça, une sorte de passionnariat, je ne sais pas. Un truc, je n'aime pas. Mais je parlais peut-être de ma propre colère. Où je me sentais... Alors, je me suis adoucie et donc j'ai un regard beaucoup plus doux sur moi. J'apprends à aimer vieillir. Parfois, ce n'est pas évident, mais j'apprends à devenir sage.
Et qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis une séductrice. Si, vous pensez?
Oui, je pense.
Écoutez, il faudrait que je demande à la femme que j'aime et qui m'aime pourquoi elle a été séduite. Je crois que ma vérité et ma fidélité et ma douceur... moi, je suis quelqu'un de très classique. Hein. Je suis l'amoureuse d'une seule femme. J'aime la fidélité. J'aime le partage. J'adore la morale amoureuse, en fait. Je hais la trahison.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme?
Je trouve que c'est difficile d'être un homme. On a l'impression que les hommes ont tout. Non, je pense que c'est assez, assez compliqué. Je trouve que j'ai trouvé la bonne solution. Et tout le monde devrait être ainsi. Je suis un homme-femme, une femme-homme. Je pense qu'il faut occuper tous les postes. Il n'y a pas un poste qui est mieux qu'un autre.
Est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente ?
Aujourd'hui, non. Parce que je suis fidèle à l'enfant que j'ai été. Je ne me suis pas, une fois de plus, ce mot revient souvent, mais je ne me suis pas trahie.
C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuot. Je vous rappelle le titre du livre de Nina Bouraoui, « Tous les hommes désirent naturellement savoir » chez Lattès. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle invitée, l'écrivain et femme politique Aurélie Filippetti. Si vous aimez ce podcast, si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux de Nova ou sur ceux de l'émission @dansle_genre2 sur Instagram ou Facebook. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.